France Inter, le 18-20.
En général, quand je range, ça terrorise mes collègues. Surtout Fabrice, le réalisateur du 18-20, parce qu'il est assis juste à côté de moi. En général, ça veut dire que je suis très en colère ou que j'ai besoin de vacances, parfois les deux. Dans ces cas-là, il n'y a plus rien qui dépasse. Rangement par le vide, boum, poubelle, sauf une vieille photo de Colargol qui est sur mon bureau et aussi une boîte de chewing-gum ouverte, jusqu'à ce que je me laisse à nouveau déborder et que patatras, ça recommence. Et puis de toute façon, c'est mon boxon à moi, bas les pattes, et moi, je m'y retrouve. Pourtant, le rangement est devenu une sorte d'art de vivre, sinon un filon. Vous avez tous, de près ou de loin, entendu parler de Marie Kondo, cette japonaise qui, dans des épisodes de Netflix sur YouTube, vous apprend à tout bien ranger comme il faut. Ça pourrait s'appeler « J'irai ranger dans vos placards ». Ça s'appelle « L'art du rangement ». Son livre a été vendu à 8 millions d'exemplaires dans le monde. Preuve qu'on a tous, au fond, un lit carré et des boîtes bien empilées dans le frigo qui sommeillent en nous. Alors, puisque c'est le printemps et qu'on met tous nos placards au régime avant l'été, qu'est-ce que ça nous procure donc, le rangement? Ça vous fait flipper? Est-ce que c'est une thérapie? Est-ce que c'est bénéfique? Du coup, pourquoi on garde tant de choses? Est-ce que ça nous rassure? Allez, quoi, la valeur finalement de ce canard GDO en plastique qui traîne depuis des lustres dans le placard ou dans le tiroir? Pourquoi ce t-shirt déchiré au col que pourtant on adore et je vous passe sur les pantalons de toutes les tailles? Nos objets nous racontent notre propre histoire. Est-ce qu'on a plus de passé? Alors, si on se sépare de nos objets, on a 40 minutes. Le rangement, c'est maintenant. Je ramasse les copies à 20h.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et bonsoir Agnès, vous êtes à Marseille. On vous salue et c'est vous qui commencez.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir et merci pour vos émissions. Alors voilà, moi je suis dans une situation désespérée parce que je suis atteinte de syllogomanie, ou bien dit-on aussi du syndrome de Diogène.
Ah.
Je n'arrive pas à jeter quoi que ce soit et je perds un temps fou quand j'essaie de ranger mes affaires. Je perds un temps fou à examiner les objets, les vêtements sous toutes leurs coutures pour me dire finalement ça peut toujours servir et pour les garder. De plus, je suis certaine que si je jette par malheur quelque chose, j'en aurai besoin le lendemain ou le surlendemain. Ça m'est encore arrivé aujourd'hui. J'ai jeté hier de vieux chiffons minable. Et aujourd'hui, mon chien a fait ses besoins sur la terrasse et j'aurais eu besoin de ses chiffons pour enlever ses saletés.
Pardon Agnès.
Voilà. De plus.
Allez-y, finissez.
Lorsque je range un objet que j'ai décidé de garder, je ne me souviens plus où je l'ai rangé, alors que je me souviens parfaitement de l'endroit où je l'ai trouvé. Donc je finis par ne plus le ranger pour pouvoir éventuellement le retrouver. Alors, j'aimerais savoir si parmi vos invités, il y aurait quelqu'un qui pourrait me sortir de cette situation abominable. J'ai deux garages pleins de cochonneries. Mes placards sont bien rangés, mais avec des objets dont je n'ai aucune utilité. J'ai encore des courriers que j'ai expédiés, que j'ai reçus plutôt il y a plus de 60 ans, de la part de camarades de classe.
Ah, ça, c'est bien.
J'ai mes bulletins scolaires de l'école élémentaire. Et c'est tout bien rangé, mais je n'arrive pas à les jeter.
Eh ben dis donc, excusez-moi Agnès, ça a l'air un peu compliqué d'être dans votre tête en ce moment.
J'ai envisagé, je l'ai fait d'ailleurs, de donner, j'ai donné pas mal de choses, mais dernièrement, je suis enseignante à la retraite, j'ai donné mes cours à une association humanitaire qui s'occupe de Madagascar, et j'en aurais eu besoin pour aider le petit-fils d'une amie, quelques temps plus tard, à passer son bac.
Eh ben merci beaucoup Agnès, parce que grâce à vous, on va pouvoir entamer très bien notre discussion. Merci beaucoup. Apparemment, vous savez où est votre téléphone et où est votre radio, et c'est un peu la seule chose qui nous intéresse, nous, à France Inter. Merci, merci vraiment beaucoup pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Guillemette Faure est là. Bonsoir Guillemette.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez écrit « Ça peut toujours servir », précisément. Oui. Donc vous allez pouvoir parler à Agnès, c'est publié l'année dernière chez Stock. Et bonsoir Christine Castelin-Meunier, vous êtes sociologue, vous avez écrit, vous, c'était en 2013, Le ménage, la fée, la sorcière et l'homme nouveau. Il y a tellement de choses dans ce que nous a raconté Agnès. D'abord, c'est à vous, la sociologue, que je m'adresse. Ça s'appelle la syllogomanie, c'est ça? Est-ce que c'est plus grave que ça encore, la vraie syllogomanie?
Mais c'est tellement vrai, tout ce qu'elle nous a dit, Agnès, que je trouve ça fantastique. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir par quel bout prendre ce qu'elle vient de nous dire. Mais j'aurais envie de lui dire, finalement, est-ce qu'elle ne peut pas communiquer avec les personnes avec qui elle vit pour éventuellement s'alléger un petit peu?
Alors, tiens, attendez, pour Agnès, vous vivez seule ou pas?
Je vis seule, c'est ce que j'allais dire.
Et ouais.
Je pense que ça aggrave mon cas.
Non, disons que ça le réveille.
Et alors donc, qu'est-ce qu'on peut... D'abord, honnêtement, parce que on n'en est pas non plus au point où on n'est pas dans la pathologie, où on ne jette pas ses ordures, etc. Enfin, on est dans quelque chose de finalement assez compliqué pour Agnès, mais enfin, elle a deux garages et c'est assez sain. Est-ce que c'est grave, honnêtement, après tout? Non, mais sérieusement.
Non, pas du tout, parce que simplement, du coup, elle manque un peu d'air, elle manque un peu d'oxygène et peut-être qu'elle a du mal aussi à se détendre, à retrouver de l'énergie et à se lancer dans des projets qui... voilà, elle a un petit peu du mal à se détacher de tout ça, certainement.
Moi, ce que je trouve formidable, c'est l'exemple du torchon, par exemple. Ben, j'en aurais eu besoin. Oui, mais non. Enfin, je veux dire, il peut y avoir aussi un autre torchon, comme si c'était ce torchon-là en particulier qui aurait pu servir sur le balcon alors qu'on l'avait jeté hier.
Il y a un attachement, une histoire.
C'est quoi le deuil, guillemets de fort, quand on jette quelque chose,
non, mais,
en fait?
Ce qui est marrant, c'est que l'histoire de penser au truc que justement on aurait eu besoin, c'est un petit peu comme les gagnants du loto, c'est-à-dire qu'on pense à la fois où on a gagné pour justifier tous les autres actes qui sont à fond perdu. Et alors moi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'était l'histoire du garage. Mm-hmm. Parce que le garage, c'est comme le grenier, c'est comme la cave, c'est comme la maison de campagne, et c'est comme maintenant les garde-meubles, mm-hmm, storage qu'on peut louer. C'est, en fait, ce sont des purgatoires, ce sont des endroits qui nous servent à éviter de nous poser la question de ce qu'on garde ou pas. Donc ça permet de plus les avoir sous les yeux, mais quand même de ne pas s'en séparer.
Et en même temps, ce qui est très fascinant, parce qu'on a tous vécu cette expérience-là, on déménage d'un endroit à un autre, on met des choses dans des cartons en se disant « je l'ouvrirai plus tard parce que j'ai pas le temps », et puis au fond, on l'ouvre jamais, preuve qu'on n'avait absolument pas besoin de ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais moi je me suis aperçue que tous les garde-meubles, ils offrent le premier mois gratuit. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'on va poser nos affaires chez eux, on n'ira jamais les rechercher. Parce que c'est trop agréable d'avoir de la place chez soi.
Christine Castelin-Meunier, est-ce qu'on peut conseiller Agnès, est-ce que ça se fait, est-ce que surtout pas, de demander à quelqu'un de mettre son nez dans son appart et de faire une espèce de prêterie, en fait?
Il y a des personnes qui font ça, ouais, et qui demandent à leurs amis, notamment. Et ça marche. Ça marche vraiment, parce que du coup, la personne délègue un peu, en discute, donc on revient à ce que je disais, quoi, pour pouvoir aussi communiquer, pour aller vers plus de détachement, et donc ça marche, et c'est intéressant de demander un petit peu à d'autres personnes de l'aide.
Ce que je trouve marrant aussi, c'est la phrase « ça peut toujours servir ». Donc, enfin, il se trouve que c'est celle de mon livre, mais parce que c'est exactement, c'est la phrase qui nous met dedans. Moi, il n'y a pas longtemps, on m'a offert un truc pour ranger les bananes, comme si mes bananes étaient en désordre chez moi. Et alors effectivement,
mais cette personne ne vous aime pas, Guillemette.
Ça peut servir vos amis pour un pique-nique si je voulais apporter des bananes. Mais en fait, tout peut toujours servir. En France, la moitié des pots de moutarde sont vendus en verre à moutarde. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah bah oui, tiens, un verre en plus, ça peut toujours servir. Alors qu'en fait, des verres, on en a déjà plein.
Oui, mais il y a des choses marquées dessus. Moi, je connais quelqu'un qui se désole d'avoir cassé un verre à moutarde avec Star Wars dessus, parce qu'il n'est pas comme les autres.
Ça peut être très joli. Hein.
Allez, on l'embrasse quand même. Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, Michel, allez-y.
Alors, j'ai écouté Agnès, et en effet, j'ai peut-être des points communs avec Agnès, parce que je garde beaucoup les choses, mais elles sont toujours très bien rangées, voilà. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de place, mais régulièrement, je vide mes placards, mes armoires, et je range, et ce qui était devant passe derrière, donc je fais un certain roulement dans les choses. Et le fait de bien ranger m'aide à me sentir mieux dans ma tête et à trouver l'énergie pour faire des choses. Je suis peut-être un peu fait du logis, j'aime pas le désordre chez moi et j'aime pas non plus le désordre dans ma tête. Et je trouve que c'est très lié, voilà. Je connais des personnes qui sont désordonnées et qui ont du mal à ordonner également leur vie. Je me suis amusée à regarder un petit peu ce lien entre la tête et l'état de la maison. Voilà, donc je trouve que c'est bien de temps en temps de jeter. Alors, pas de jeter, non, je dis des bêtises, de donner. De donner, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de boutiques solidaires, notamment pour des vêtements, des chaussures, des sacs. Donc, pour donner, donc on donne à des boutiques solidaires. Donc oui, ça peut servir, mais à d'autres personnes. Il y a des sites, je ne vais pas faire de pub, mais il y a des sites pour se débarrasser de meubles, de canapés, quand on a envie d'en changer. Et changer les meubles de place, changer le contenu des placards, ben, ça aide aussi peut-être à avancer dans la vie et à changer aussi des choses de sa vie.
Merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage. Christine Castelin-Meunier, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un corollaire entre l'état de ses placards et l'état de sa tête, ou pas?
Ah oui, certainement. Mais moi, j'ai envie de dire que, voilà, dans la société actuelle, quand même, la femme, elle est moins tenue d'être fait du logis. Hein. Et c'est pour ça que dans le livre Le ménage, la fée, la sorcière et l'homme nouveau, je faisais aussi allusion à la sorcière. Parce que ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que les jeunes femmes se préoccupent moins du ménage, de l'ordre et tout ça. Par contre, se préoccupent plus de le côté un peu bio de la maison, des choses comme ça. Et finalement, la sorcière, elle était très proche de la nature. Mais elle était désordonnée, mais peut-être ordonnée aussi autour d'objectifs très précis. Et c'est peut-être ça, quoi. Il faut peut-être aussi se tourner vers des projets qui nous envoient ailleurs et peut-être se mettre à ranger au moment où on n'est pas exténué, parce que là, on trouve que c'est horrible de ranger.
Mais est-ce que vraiment, sincèrement, est-ce que vraiment on est un peu plus cafouillis dans la vie de tous les jours parce qu'on est cafouillis dans son appart, guillemette?
Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est les contenants qui définissent ce qu'on va garder ou pas. C'est-à-dire que quand on pense, par exemple, à nos serviettes de bain, dans la salle de bain, le nombre qu'on garde, il n'est pas du tout lié à ce dont on a besoin, mais simplement à la hauteur de l'espace sur l'étagère. Si vous regardez, par exemple, votre ordinateur, votre téléphone, en fait, tout ce qu'on a, on remplit à 90%, que ce soit un placard ou la mémoire de son téléphone avec ses photos. Donc l'idée, c'est que puisque c'est rangé, de toute façon, on n'a qu'à le garder, quoi.
Donc pour vivre heureux, vivons dans le petit, en gros, Christine Castelin-Meunier.
Et dans le désordre. Et c'est pour ça que moi, je me suis intéressée aussi aux hommes, parce qu'ils ont une conception un peu différente. Ils sont moins dans le contrôle de l'espace pour que ce soit nickel, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'impératif de la bonne mère et tout, ça passe par le ranger, le tout ça. Et les hommes, je trouve qu'ils sont un petit peu moins préoccupés de... Voilà, parce que l'histoire les a envoyés ailleurs que dans la maisonnée. Et ils acceptent la poussière. Ouais, moi, ça m'a impressionnée.
Ah, je suis bien d'accord avec vous. Ils acceptent beaucoup de poussière.
Non, mais c'est pas forcément dans le sens négatif du terme. C'est pas parce qu'ils ne foutent rien, non. Parce que si on voit du côté des jeunes générations, moi c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est que là, ils commencent à s'y mettre aussi, mais pas de la même manière. Et finalement, c'est riche.
Est-ce que, mais en plus, pardon, de Marie Kondo, je crois que Instagram a fait aussi beaucoup pour l'éloge du vide. Maintenant, le code du luxe, c'est d'avoir un espace vide, parce que ça montre qu'on arrive à se contrôler dans le nombre de choses qui arrivent chez soi. Et dans ces espaces vides qu'on voit sur les photos, qu'on voit dans les appartements Airbnb, non seulement il n'y a rien, mais alors vous remarquerez qu'en général, il n'y a pas de câbles. Il n'y a, pas tous les fils électriques qui traînent chez nous, les chargeurs,
tout ça est quand même très, très aseptisé.
Alors que dans toutes les familles, il y a des trucs qui dépassent. Le chargeur.
Bien sûr, un tiroir de chargeur, un tiroir avec tout, les canards en plastique et toutes ces autres bêtises. Est-ce que pour les gens qui ont du mal à ranger, sérieusement, Christine Castelin-Meunier, est-ce que donner c'est plus facile en fait? Parce qu'on se dit qu'il y a une deuxième vie, même si elle nous échappe.
Oui, c'est super de pouvoir donner. Et moi je pense à ce que dit aussi l'ethnologue, ce qu'il disait, donner, recevoir, rendre. Et ça nous aide de penser qu'on va pouvoir donner. Oui, effectivement. Parce que ça devient quelque chose d'assez noble. Et d'un point de vue éthique, en termes de valeur.
On peut imaginer, etc., aussi ce que deviennent les objets après tout.
Et c'est marrant parce que, par exemple, Emmaüs, on leur donne aussi énormément de choses qui n'ont pas de deuxième vie possible, c'est-à-dire des bols ébréchés, des tabourets à deux pieds, etc. Mais ils se sentent obligés de les accepter parce que les gens ont beaucoup de mal avec l'idée qu'on refuse leurs dons. Donc ils préfèrent prendre trop plutôt que d'avoir à dire bah non, ça, on est vraiment désolé, mais on ne peut rien en faire.
Oui, mais c'est compliqué aussi de trouver les créneaux pour donner. Parce qu'il y a aussi des sélections dans ceux qui ramassent les affaires. Donc, je trouve que ce serait positif si on accompagnait les gens pour donner plus.
Voilà. Mais dans une ville comme Paris, le ramassage des encombrants augmente de 10% par an depuis 3 ans. Donc, c'est quand même énorme, avec 3 services par jour qui vont ramasser toutes les... les étagères suédoises.
Et en même temps, ce qui est vrai aussi, on a tous expérimenté ça dans les grandes villes, c'est le cas à Paris. Quand vous laissez vos objets pour les encombrants, les encombrants sont pas arrivés, il y en a déjà les trois quarts qui ont disparu parce que les gens se sont servis, et tant mieux, parce que c'est aussi à ça que ça sert. Donc votre propre boxion finit...
Des gens qui pensent que ça peut toujours servir.
Par des gens qui pensent que ça peut toujours servir.
Ils se demandent bientôt ce qu'ils vont en faire.
Exactement, et on le retrouvera aux encombrants. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Jacques, on vous écoute.
Oui, moi simplement, j'ai changé de région, j'étais en Normandie et je suis arrivé en Bretagne dans le golfe du Morbihan. Je suis passé de 180 mètres carrés à 87 mètres carrés et donc j'ai viré 80% de ce que j'avais chez moi.
Et ça vous a fait du bien ou pas?
Bien.
Voilà.
Très, je suis aux anges, je dors très bien et c'est vrai que j'ai donné beaucoup, j'ai donné à mes enfants, j'ai donné à Emmaüs, j'ai mis en dépôt vente, et puis je m'aperçois qu'en fait, on n'a pas besoin de... Il y a beaucoup de choses dont on n'a plus besoin, et j'entendais parler de la salle de bain, effectivement, d'avoir 5 ou 6 serviettes de salle de bain avec 2 ou 3 gants, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 ou 15, et donc je suis arrivé à beaucoup moins de choses dans mon appartement, et ça me va très bien.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez gardé, Jacques? J'ai un peu cette curiosité, en dehors des choses, j'imagine que vous avez gardé des assiettes, des verres, des serviettes de bain, etc., mais sinon, est-ce que vous avez compté, est-ce que vous savez quels sont les objets personnels, les trucs qui servent à rien mais auxquels on tient, que vous avez quand même gardé?
J'ai gardé, j'ai un meuble design que je voulais absolument garder, donc je l'ai. J'ai un fauteuil que je voulais absolument garder, et puis j'ai gardé tout un nombre important. Enfin, j'ai donné beaucoup de livres, mais j'ai gardé l'essentiel. C'est surtout ça. Moi, en fait, autrement, je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Et dans mes affaires aussi, j'en ai beaucoup donné. J'ai donné beaucoup de vêtements.
Merci Jacques. Merci pour votre témoignage et bravo pour le vide. Donc, Christine Castelin-Meunier, il y a forcément des objets doudou. Ça existe, l'objet doudou, un peu comme le doudou d'un enfant au fond. On a tous ça chez nous. Se débarrasser de ça quand on garde quelque chose qu'on a depuis l'enfance, se débarrasser de ça, est-ce que c'est important ou au fond, mais gardons-le, l'objet déco de Jacques ou autre chose. Si, gardons-le sur les étagères, pourquoi pas après tout.
Ah ben c'est super de pouvoir garder comme ça des choses auxquelles on tient et peu importe. Et moi c'est ça aussi que je trouve super du côté des jeunes générations, c'est qu'il n'y a pas ce souci du paraître. Voilà. Mmh. Et donc il y a cette manière aussi de juxtaposer un certain nombre de choses et pour le bonheur de tout le monde. Et je trouve ça très bien. Et en fait, ce que je trouve aussi qui est très important, c'est que ce qu'on a autour de nous, finalement, ça fait partie de notre identité. Et on est dans une société où affirmer notre identité, c'est essentiel. Et donc ce qui importe, c'est aussi de prendre des moments où on se détend. Alors moi, ce que je trouve qui est génial pour commencer à se mettre à ranger, c'est, si on peut, si on a une fenêtre, regarder le ciel, parce que le ciel, c'est toujours un compagnon qui nous accompagne toute la vie. Il sera toujours là, le ciel. Et se mettre un peu à se concentrer et à se dire, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel dans cette pièce-là? Qu'est-ce que je vais garder?
Justement, c'est le sens de la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est vraiment l'essentiel, au fond, qu'il faut garder? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Est-ce que c'est vraiment l'essentiel?
Ça dépend vraiment la définition de l'essentiel. Mais je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les choses qu'on arrive à donner et qu'il a réussi à donner, c'est qu'à chaque fois qu'on se sépare de quelque chose, c'est aussi renoncer à une personne qu'on pensait être aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on donne des vêtements trop petits, et on renonce à penser à qu'on va remincir bientôt, de la même manière que quand on donne ses instruments de musique, on arrête de se faire croire qu'on va se remettre à la musique bientôt, ou qu'on va se remettre au sport bientôt, ou quand on garde tous ses moules en silicone en se faisant croire que demain on va devenir une grande hôtesse qui donne des dîners majestueux.
Vous êtes en train de me faire une peine.
Non, en fait, il y a plein de choses qu'on garde pour nous faire croire à tout c'est possible.
Bonsoir Françoise.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Françoise.
Bonsoir, ma France Inter. Écoutez, moi, je suis une très grande bordélique. Je suis une dame de 73 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à jeter. Il se trouve qu'à l'occasion d'un déménagement, je vivais en région parisienne et je suis allée m'installer à Toulon et à Marseille. J'ai jeté un manteau. Vous savez, ces manteaux des années 70 qui n'avaient pas de doublure, mais qui étaient dans une laine, dans un tissu extrêmement épais. Il était rouge, il avait des jolis boutons. Et j'étais bien dedans, comme dans une robe de chambre. Eh bien, voyez-vous, quasiment tous les hivers, je cherche mon manteau rouge.
Comme une double peau. Comme une double peau.
Et alors, ce qui est très drôle, c'est que, vous savez, j'ai 73 ans, donc on grossit, on maigrit, on grossit, on maigrit. Et j'ai jeté, avec l'aide de ma fille, parce que ma fille m'a dit, mais ma pauvre mère, t'es complètement cinglée.
Jetez votre fille.
Ma fille de 45 ans m'a donc débarrassé ma garde-robe de plein de fringues. Entre-temps, j'ai remaigri de 15 kilos. Eh bien, voyez-vous, je regrette tous les vêtements qu'elle a foutus en l'air.
Voilà.
Et en même temps, Françoise, allez vous acheter des fringues, quel bonheur aussi.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces fringues, je les ai données à une copine qui, sur Internet, fait un commerce sur les vêtements vintage, et j'étais une grande coquette. Eh bien, je me mets à les regretter. Et alors, j'ai peut-être 60 sacs à main. Oh, je sais pas, peut-être 100 paires de pompes.
J'adore.
Des fringues accrochées dans tout le bordel de la baraque et que je ne mets plus jamais. Mais est-ce que vous imaginez que si un jour j'avais envie de les mettre, ils ne soient plus là? Comment je ferais? Et alors je me marre. Je me fous de moi-même. Eh bien, mes sacs à main, mes pompes et tout le bordel, eh ben, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et si ma fille vient, c'est elle qui m'en débarrasse, et après je regrette.
Et en même temps, moi, François, je trouve que votre quête du manteau perdu, elle est aussi formidable, en fait, parce que...
Ce manteau, je l'aimais, et je le cherche tous les hivers, et je sais très bien que je l'ai foutu en l'air, puisque j'avais déménagé entre Paris et la Côte d'Azur, et que ce manteau, vous savez, c'est laine ancienne grattée, très épaisse, qui n'avait pas de doublure.
Ah oui, si on voit très bien. Et alors vous,
c'est Fabienne Saint-Esse qui l'a récupéré.
Bien dedans, comme dans une robe de chambre. Eh ben, je le cherche encore.
Merci beaucoup, Françoise. Merci pour le rire aussi. Preuve que c'est pas non plus catastrophique. Moi, je trouve ça formidable que Françoise à la fois attende que sa fille vienne pour faire un peu de tri là-dedans, mais qui en même temps a pas du tout envie qu'on jette les choses et qui les cherche ensuite, Christine Castelin-Meunier.
Moi, je suis très émue parce que effectivement, c'est un attachement, c'est une double peau, voilà, et elle en a besoin. Et c'est un peu aussi les vêtements, c'est un peu comme un oignon, quoi. On a plein de choses qu'on superpose aussi parfois, une robe, un t-shirt, un manteau, etc. Et je trouve que, bah oui, c'est la double peau, on en a besoin.
Mais alors là, dans ce que dit, elle nous parle de son manteau des années 60, Françoise. Est-ce que quand on jette un manteau qu'on a porté, on jette une partie de son passé, de ce qu'on a été, de sa jeunesse? Enfin,
histoire,
c'est tout ça qui est de son histoire. Oui. C'est ça qui rend les choses peut-être plus compliquées, Guillemette Faure.
Et en plus, il y a une différence entre les choses qu'on garde parce qu'on les aime. On a raison d'être matérialiste et d'aimer les choses. Mmh. Et celles qui arrivent chez nous quasiment à notre insu. Je pense par exemple aux échantillons d'hôtels. Mmh. Quasiment dans tous les milieux, les gens quand ils vont à l'hôtel ramassent les échantillons,
les shampoings, les savons,
alors que c'est pas vraiment utilitaire, parce que vous remarquerez qu'en général il y a pas de dentifrice, mais il y a des charlottes de douche, alors que c'est quand même limité l'usage d'une charlotte de douche. Il y a plus beaucoup de gens qui en utilisent, mais j'ai interrogé une marque de produits comme ça, il me disait c'est le deuxième objet des salles que les gens prennent, c'est la charlotte de douche. Donc en fait il y a tous ces objets qui arrivent chez les échantillons, c'est le deuxième budget des hôtels en achat, après la literie. Donc il y a tous ces objets qui arrivent chez nous, alors qu'en fait, quand on regarde tous ces mini-savons, on pourrait arrêter d'acheter du savon demain, on aurait de quoi se laver jusqu'à la fin de nos jours, et on continue quand même à les prendre, même quand on trouve qu'ils sont de mauvaise qualité, qu'on sait qu'on va pas les utiliser. Donc je pense que les choses qui nous encombrent, c'est plutôt ça que le manteau rouge.
Agnès, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Agnès, allez-y.
Eh bien, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de toute mon histoire, en fait. Parce que j'ai été très jeune infirmière, donc j'ai gardé mes cours d'élève infirmière. Alors ça, c'était dans les années 81. Ensuite, j'ai été professeure de danse pendant plusieurs années, donc j'ai fait des chorégraphies, j'ai fait des tas de ballets, donc j'ai tout écrit, j'ai mes costumes, j'ai même mes vieux juste au corps. J'ai été professeure de sciences médico-sociales, j'ai tous mes cours. Et dernièrement, il y a quelques années, j'ai passé un concours de personnalité de direction et aujourd'hui, je suis principale adjointe d'un collège. Donc, j'ai toutes ces identités-là en moi et je n'arrive pas à me débarrasser de tous ces cours, de tous ces croquis, de toute mon histoire en fait. Et j'ai l'impression que j'ai essayé plusieurs fois, je fais du tri régulièrement, je me débarrasse de certaines choses, mais j'en garde toujours un petit peu. J'ai l'impression que si je jette ces cours, je ne serai plus celle que je suis aujourd'hui.
C'est intéressant, parce qu'en fait, vous avez eu plusieurs vies, Agnès, mais quand l'une prend le pas sur l'autre, elle s'empile vos vies, en fait. L'une ne remplace pas l'autre, mais elle s'empile au fond, en fait, avec les objets.
Exactement, elles sont toutes imbriquées, en fait.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Christine Castelin-Meunier. Et encore une fois, on a envie de dire à Agnès, et pourquoi pas, après, effectivement, alors si ça déborde dans la maison, c'est encore une autre histoire, mais pourquoi pas avoir envie de garder un morceau de tout ce qu'on a été pour pouvoir à un moment, j'en sais rien, se retourner en disant, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est pas mal au fond.
Oh, oui, parce que finalement, avec l'allongement de la vie, avec la complexité de la vie, avec le fait qu'on change beaucoup plus de travail qu'autrefois, on comprend bien que finalement tout ça se juxtapose et tout ça fait partie de notre histoire. Et donc on comprend bien que finalement il faudrait pouvoir pousser les murs, quoi. Donc il va falloir demander aux architectes de créer quelque chose.
Mais les architectes sont très minimalistes aussi.
Pour moi, c'est pour ça qu'il ne faut pas se poser la question de est-ce que c'est utile ou pas, qui est vraiment la mauvaise question et qui fait qu'on reste avec des choses dont on n'a absolument pas besoin chez soi. Mais en revanche, garder des choses parce qu'elles fonctionnent finalement un peu comme un album de photos et qu'elles racontent qui on a été et qui on est, oui, bien sûr.
Stéphanie, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Stéphanie.
Alors, moi, je voulais témoigner parce que je suis mariée, je suis avec une personne depuis 25 ans, mariée depuis un peu moins, et en fait, on fonctionne complètement différemment. Mon mari garde tout, et moi, je jette tout.
Donc... Et en même temps, vous êtes ensemble depuis 25 ans, donc tout va bien.
Donc, c'est pour témoigner que ça peut marcher. Donc moi en fait je pense que je ne jette pas, je donne beaucoup, je fais beaucoup de tri, je donne aux associations, je fais un gros tri, mais ça m'aide à m'organiser dans ma tête. Je pense que il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que c'est un peu le reflet de sa tête. Pour moi c'est un sentiment de bien-être après. Et mon mari, lui, j'ai l'impression que c'est un déchirement de donner, de même de supprimer ses mails, de supprimer les mauvaises photos, il garde l'étiquette cinéma, il a fait une collection quand il était petit d'opercules, de pots de yaourt qu'il avait classé dans un cahier qu'il a retrouvé il y a peu de temps et qu'il voulait absolument garder. Donc voilà, c'est une vie de collection et j'ai l'impression que chaque chose est attachée à une époque de sa vie.
Mais du coup, est-ce qu'il y a un coin pour lui, un coin pour vous, et du coup il fait ce qu'il veut dans son coin avec ses opercules de yaourt, ou est-ce que les frontières sont floues?
Il y a un coin. Chacun adopte ses stratégies, c'est-à-dire que lui, dans le garage, par exemple, il a constitué un étage où il sait que je peux quasiment pas accéder, même avec l'échelle, ou alors je me ferai mal en tirant les cartons. Donc il y a un étage auquel je ne peux pas toucher. Donc ça c'est l'étage réservé et là j'ai laissé tomber, j'accepte, c'est comme ça, même si des fois je lui dis qu'il envahit un peu mon espace vital. Mais c'est vrai que je profite régulièrement, et je pense qu'il le sait, c'est presque un jeu, quand il est absent parce qu'il fait des déplacements professionnels.
Vous jetez quand il n'est pas là.
Je vide. Et lui, il faut trouver des stratégies pour enlever et mettre à des endroits où il ne va pas retourner chercher et recacher à d'autres endroits que je vais retrouver par hasard. Et voilà. Bon,
c'est votre mode de fonctionnement, c'est joli. C'est votre mode de fonctionnement au fond, Stéphanie.
Voilà. Finalement, au bout de 25 ans, on y arrive. Il y a eu quelques psychodrames quand même. Je reconnais, mais globalement, on arrive à un certain compromis.
Et en même temps, je suis sûre, en vous écoutant, que vous ne jetez pas les choses dont vous savez que ça lui ferait de la peine, en fait. Par exemple, vous avez gardé les opercules de yaourt.
Ce qui est arrivé, ce qui a pu aboutir à des situations de crise, c'est vraiment ce qui pouvait avoir une valeur affective, où on ne pouvait pas vraiment passer là-dessus. Donc là, j'ai reconnu que j'étais allée un peu vite en besogne et que, là j'ai fait marche arrière. Donc maintenant, j'arrive un peu à apprécier ce qui peut être vraiment important pour lui, affectivement parlant, et les choses qui, comme les tickets de cinéma qui datent de 10 ans, qui vraiment, je me dis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, et puis il y a un moment où vraiment ça... Moi, j'ai l'impression, et je lui dis de temps en temps, tu empiètes sur mon espace vital. Donc, voilà, je restaure un périmètre de sécurité autour de moi. Voilà.
Ben, bravo pour ce périmètre de sécurité, Stéphanie. Merci beaucoup pour ce témoignage qui va dans le sens de ce que vous disiez, Guillemette Faure.
Mais alors, ce qui est très marrant, c'est que, justement, en faisant mon livre, je n'ai trouvé quasiment que des couples où il y avait un gardeur avec un jeteur. Mmh. Et cette dynamique-là, parce que justement, il y en a un qui se charge de faire le boulot que l'autre veut pas faire, que ce soit garder ou jeter. Et ce qui est très drôle, j'ai trouvé ça aussi d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que quand ceux qui ont des parents qui gardent absolument tout, du coup, gardent très peu de choses, et inversement. Quand les parents se débarrassent de trop de choses, tout d'un coup, la génération d'en dessous se dit, oh là là, non, mais là, ils y vont trop fort, il faut qu'on en garde. Mais c'est très drôle comme dynamique.
Bonsoir, Audrey.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Audrey, on vous écoute.
Merci, je suis ravie de vous parler, Fabienne. J'écoute votre émission souvent, ça me fait très plaisir de pouvoir intervenir.
Eh ben, moi aussi, Audrey, allez-y.
Alors, moi, je voulais parler du voyage comme thérapie aux problèmes de rangement. Parce qu'en fait, donc moi avant, j'avais le même problème un peu que votre première auditrice, c'est-à-dire tout accumulé, mes cours, mes notes d'école, mes dessins, mes jouets, j'arrivais jamais à rien jeter parce que c'était trop sentimental. Voilà, dès que j'avais un peu utilisé un objet ou que j'avais passé un bon moment avec, c'était impossible à jeter, ça s'accumulait. Et puis en fait, au cours de mes études, je suis partie en Australie pendant 7 mois. Et là, il a fallu partir avec un sac à dos de 15-17 litres. Donc, il a fallu faire des choix assez drastiques pour moi de ce dont j'avais réellement besoin et pas ce que j'avais envie d'emmener. Et là, le « ça peut toujours servir », non, c'était pas du tout possible. Ça va surtout m'encombrer. Donc j'ai mis du temps déjà à faire mon sac et à partir, à prendre l'avion, à partir avec mon sac, avec ma vie dans un sac à dos. Ça, c'était un concept assez difficile à appréhender. Et puis au final, donc au cours de ces 7 mois, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande. J'ai bazardé plein de trucs au passage parce que finalement, c'était pas vital. Et en fait, en revenant de ce voyage, j'ai eu horreur d'accumuler des choses. Ça m'a vraiment vaccinée, en fait, de mon matérialisme d'avant. C'est-à-dire que maintenant, je fais le tri par le vide parce que c'est soit je m'en sers, soit je m'en sers pas.
Pas mis depuis 2 ans poubelle, moi, c'est mon truc. Pas mis depuis 2 ans poubelle, boum.
Voilà, c'est ça. Alors après, je donne énormément tous les ans. Je fais le gros ménage de printemps, je donne. Mais j'ai une amie qui était partie, elle aussi, à l'étranger en même temps que moi. Et son leitmotiv, quand elle est rentrée en France, c'était « ma vie dans un backpack ». C'est-à-dire qu'à tout moment, du jour au lendemain, elle devait être capable de partir avec, c'est un peu extrême, hein, mais avec toutes ses possessions sur le dos, elle devait être capable de faire un sac et de s'en aller. Ça simplifie en fait.
Merci beaucoup Audrey, et pourquoi pas après tout ma vie dans un backpack. Ce que je remarque, Guillemette Faure, c'est que au fond il peut pas y avoir d'objets sacrés, en fait. Il y a des gens qui sacralisent des choses, par exemple les livres, on n'y touche pas, etc. Non, quand on voyage par exemple, ce qui est formidable, c'est vous avez voyagé comme moi, c'est de les laisser au fur et à mesure, en fait, parce qu'on en prend un autre et du coup on en laisse un. Il y a ça aussi dans l'objet, il faut le laisser voyager, en fait.
Oui, et puis on est obligé de s'interroger sur sur chaque chose qu'on garde. Il n'y a plus de choses qu'on garde parce qu'elles sont là depuis 20 ans et que de toute façon, autant continuer avec.
Et Christine Castelin-Meunier, est-ce que ça soigne, au fond? Là, je vois qu'Audrey dit qu'au final, cette expérience-là a fait que non, elle ne garde plus rien. On a cet auditeur sur franceinter.fr qui dit « Moi, je conseille de déménager. J'ai déménagé 8 fois en 20 ans. Ça permet de faire un vrai tri. » Est-ce que ça soigne? C'est-à-dire, est-ce que quand on est un gros bordélique, on le reste jusqu'à la fin de sa vie? Ou est-ce que on peut aussi être complètement différent parce que la vie nous emmène ailleurs et nous envoie sur d'autres chemins et nous fait ranger mieux ou ranger différemment?
Pour reprendre l'image du voyage, c'est clair que c'est un renouveau finalement. Et puis je pense aussi à Françoise Sagan qui disait qu'elle déménageait sans arrêt, justement pour ne pas, entre guillemets, s'ankyloser dans un espace. Et puis bouger dans sa vie. Et donc, et puis je voulais dire aussi autre chose en écoutant les autres éditeurs précédents. C'est que finalement, la question, quand on vit avec quelqu'un, c'est l'enjeu, c'est accepter les comportements de l'autre et être dans l'estime de soi et le respect d'autrui. Et en fait, je me dis, mais c'est génial parce que la question du ménage, ça nous renvoie à des choses, alors que ça paraît tout à fait banal, basique et puis tout à fait terre à terre, mais ça nous renvoie vraiment à la question aussi de la qualité du lien concernant les personnes qui vivent ensemble.
Dans le couple, en général, chacun l'impression que d'avoir quelque chose de rationnel dans tout ce qu'il garde et que l'autre en revanche garde des choses sans aucune raison. On est toujours convaincu qu'il y a des raisons derrière tout ce qu'on garde, mais pas chez l'autre.
Donc à chacun son délimitons bien et chacun son territoire, comme disait notre auditrice tout à l'heure, chacun son territoire et chacun son boxon. Et pourquoi pas, tiens, cette petite phrase de je vois pas son prénom sur franceinter.fr, cet auditeur qui dit le rangement c'est super pour faire le tri et donner aux associations. Donc il y a des gens qui font revivre ces objets et cette auditrice qui nous dit on m'a offert le livre de la joie d'être bordélique pour mon anniversaire et c'était une libération, marre de cette injonction supplémentaire, toute l'enfance on entend range ta chambre, on continue encore adulte, stop le bazar, c'est la vie, nous dit-elle. Et écoutez, ce sera ça notre phrase de conclusion. Nous on n'a pas le droit d'être en bazar, on est obligé de finir à l'heure et c'est pile maintenant. Merci à tous et portez-vous bien.